Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser connaître quelqu'un et de vous apercevoir que ce n'est pas celui que vous imaginiez? Albert nous a parlé la semaine dernière de la déception. Et souvent, on peut avoir cette déception de connaître quelqu'un et puis de s'apercevoir qu'en fait, on ne le connaît pas. Alors moi, je voudrais vous faire découvrir Jésus, non pas parce que vous allez être déçus, bien évidemment, au contraire, vous allez être émerveillés. Est-ce que ce Jésus, vous le connaissez, nous le connaissons vraiment? La Bible nous dit qu'on ne connaît que partiellement les choses. Alors, qui est ce Jésus dont tout le monde parle? L'apôtre Paul nous parle dans plusieurs de ses lettres d'une révélation de mystère de Dieu, à savoir Christ. Et que beaucoup de ces mystères sont déjà annoncés dans l'Ancien Testament. Il déclare aussi dans Philippiens 3:8, et je regarde toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Ou alors dans une version différente, Parole de vie, connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné, a-t-il dit. Donc Paul était quand même quelqu'un de très érudit. Il a étudié le grec, il a étudié l'hébreu, il a étudié les Écritures au pied de Gamaliel, qui était un grand rabbin reconnu, et il déclare que tout ce qu'il a étudié jusque maintenant, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu lui a révélé. Vous imaginez un petit peu le mystère que Dieu a pu lui révéler? Il ira même jusqu'à proclamer que c'est à lui que Dieu a révélé ce mystère, dans Éphésiens 3:8, à moi qui suis moins que le moindre de tous les saints. Cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations la richesse insondable de Christ. Ces mystères dont il parle sont prophétisés dans l'Ancien Testament, dès le début. Ça nous est rappelé dans Colossiens 1:26, le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints. Paul explique aussi que dans l'Ancien Testament, le Christ est présent partout. Il y a une préfiguration du Christ qui est annoncée. Et que c'est cette succession de miracles que Dieu avait programmé pour que la venue du Christ soit présente. Le premier miracle, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, le messager du Christ, né d'une femme stérile, annoncé dans Ésaïe 43. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Malachie 3:1. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Deuxième miracle. Zacharie, sacrificateur à l'autel des parfums. Un ange lui apparut pour lui annoncer la naissance d'un fils. Troisième miracle, la naissance de Jean-Baptiste où Zacharie retrouve miraculeusement la parole. Quatrième miracle, Marie, l'annonce de la naissance de Jésus par un ange alors qu'elle est vierge. Ésaïe 7:14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Cinquième miracle, Joseph, où un ange lui apparut à plusieurs reprises, où il est guidé pas à pas lorsqu'il apprend que Marie est enceinte et qu'il ne doit pas la répudier. Sixième miracle, quand il emmène Marie pour donner naissance à Jésus à Bethléem. Dieu avait prévu l'endroit et le lieu de sa naissance. Michée 5:2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Succession de miracles pour la venue de Jésus. Marie et Joseph ont parcouru 170 kilomètres pour aller vers Bethléem afin d'être recensés selon l'ordre de César Auguste, l'empereur de l'époque, empereur romain. Luc 2 de 1 à 4. Elle est au terme de sa grossesse, hein, donc il faut parcourir quand même 170 km à Dodane. Nous, les femmes, on s'imagine ce que ça peut être. Quelle horreur. Il est prophétisé que le Messie devait naître à Bethléem. Vous savez qu'il y avait deux Bethléem. Il y avait un Bethléem tout proche de Jérusalem et un Bethléem à 170 km de Jérusalem. Et ce Bethléem à 170 km de Jérusalem, on élevait les agneaux pour la sacrification. Michée 4, 8. « Et toi, tour du troupeau. » Alors, tour du troupeau, ça veut, c'est en hébreu, c'est Migdal Eder. Migdal Eder, donc la tour du troupeau, c'est là où les petits agneaux naissaient. Il les mettait au premier étage, donc c'était une tour sur plusieurs étages. Il les mettait au premier étage parce qu'ils devaient être parfaits, sains, sans défaut, sans os brisés. Et pour ne pas qu'ils se brisent les os, il les emmaillotait et les mettait dans une crèche. Je ne sais pas si vous voyez le parallélisme. Et toi, donc, tour du troupeau, Migdal Eder, il y arrivera donc ce Jésus. Une précision importante que peut-être on n'a pas relevée jusque maintenant, enfin, c'est sûrement certains d'entre vous l'ont relevé, il est dit dans Luc 2, 6 à 7, que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, arriva, elle enfantant son enfant premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il est dit, il n'y avait pas de place pour eux. Il n'est pas dit, il n'y avait pas de place. Alors pourquoi il n'y avait pas de place pour eux? Tout simplement, ça nous est révélé dans le Lévitique. Dans le Lévitique, une femme qui doit accoucher est impure pendant 7 jours, plus 33 jours après. Donc 40 jours au total. Donc forcément, ils ne pouvaient pas l'accueillir à l'hôtel. Donc c'était programmé qu'elle devait arriver peu de temps avant son accouchement pour qu'elle accouche dans une crèche, dans la tour du troupeau. C'est quand même incroyable ce que Dieu a fait, cette succession de miracles pour sa venue. Ça, c'est les successions de miracles. Maintenant, si on revient à qui est ce Jésus, le deuxième point, c'est d'où vient la compassion de Jésus. Jésus n'a pas eu une vie facile. On ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Jésus. On sait qu'il a passé une bonne partie de sa vie à Nazareth. Et Nazareth, en hébreu, ça se dit Netzer, qui signifie rameau. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Puis Zacharie 6, 12 dira, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. » Un rameau, un germe. Nazareth était un village qui avait une mauvaise réputation, particulièrement par les gens de Jérusalem. C'était un village qui était méprisé. On le voit dans Jean 1, 45-46, quand Philippe, qui était de Bethsaïda, arrive et André et Pierre étaient là. Philippe les rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, ce Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël va répondre, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» On voit bien quand même que là, c'était assez méprisé. « Peut-il venir quelque chose de bon ?» Il y avait à cette époque beaucoup de faux messies. On en retrouve un passage dans Actes 5, 34-35, quand Gamaliel dit au sein du Sanhédrin, il se lève et il dit « Faites attention, ne jugez pas ces apôtres parce que si jamais c'est de Dieu, vous vous mettez contre Dieu. Mais si jamais c'est un faux messie, eh ben ça va mourir de lui-même en fait, comme l'a été Teudas, donc qui s'est annoncé messie, et comme l'a été aussi Judas le Chaldéen, qui s'était aussi annoncé comme messie, des faux messies. Donc vous imaginez Jésus, il arrive et il dit « Je suis le Messie ». Forcément, il y avait une crainte, il y avait une réticence de ce que Jésus avait annoncé. Ils se sont méfiés. Donc Jésus, méprisé, mais rejeté par ses propres frères. Rejeté par ses propres frères. Et ça, on le voit dans le psaume 69, verset 9. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Verset 11. « Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de ses sarcasmes, de leurs sarcasmes. » Verset 12. « Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. » On imagine que ça ne devait pas être des belles chansons comme ce qu'on a joué ce matin. Mis de côté ce Jésus, né hors mariage, traité de mamzer, qui veut dire bâtard, méprisé par ses propres frères, qu'il envoie aussi de façon sarcastique au devant, pour qu'il soit encore plus méprisé, plus montré du doigt. Jean 7, versets 1 à 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Et ça, c'était pour qu'il soit encore plus méprisé, un peu plus rejeté. Méprisé, rejeté par ses frères, rejeté par ses parents. Rejeté par ses parents qui ne comprenaient plus et ne voulaient qu'il arrête ses miracles. Cela les mettait mal à l'aise, en porte-à-faux. Marc 3, 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour le saisir, se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Quand on dit de son fils qu'il est hors de sens, ça veut dire qu'il n'a plus toute sa tête, quoi, quelque part. Rejeté, moqué, source de mal-être pour tous les habitants de Nazareth, qui trouvaient le comportement de cet enfant né hors mariage étrange. Je ne vous parle pas des souffrances qu'il a vécues par la suite, où il a été abandonné de ses disciples, flagellé, humilié, barbe arrachée et crucifié. Alors ce Jésus qui a vécu tout cela pouvait d'autant plus comprendre et avoir autant de compassion pour tous ceux qui sont déjà rejetés, abandonnés, les boiteux, les lépreux, les femmes adultères, les pécheurs, et nous qui étions pécheurs. Cette compassion, il peut la comprendre d'autant plus qu'il l'a vécu. Il a vécu le rejet. Il a vécu le manque d'amour. Pour certains d'entre nous, nous avons aussi vécu le rejet, l'incompréhension, la souffrance, la trahison peut-être. Jésus a de la compassion, je crois qu'on l'a dit ce matin, pour chacun d'entre nous. Il souffre quand nous souffrons, il pleure quand nous pleurons. Troisième point, pourquoi Jésus a-t-il fait autant de miracles ? Eh bien, tout simplement, il allie la parole et les gestes. Matthieu 11, 4, 5 nous dit « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Dans les évangiles, Jésus opère beaucoup de miracles, à un tel point qu'il est dit qu'on ne peut pas les écrire tellement il n'y aurait pas assez de place dans cette salle pour mettre tous les livres qui pourraient être écrits sur lui. Ceux qui décident de le suivre sont ceux qui ont entendu la parole. Du salut en premier, et qui ont vu le geste du salut, quelque chose qui les a sauvés dans leur nature abîmée. Alors pourquoi Jésus a-t-il fait autant de miracles ? Parce que l'homme a besoin constamment d'être convaincu. Malheureusement, l'homme a besoin constamment d'être convaincu. L'homme est par nature incrédule. Les miracles sont des signes extraordinaires pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu a voulu offrir une expérience sensible de ses bienfaits, montrer sa vraie nature. Il a fait des gestes extraordinaires, comme chasser les démons, les miracles de puissance, la multiplication des pains, la résurrection des morts. Et on remarque qu'il y a différentes sortes de miracles dans les évangiles, et c'est difficile de mettre ces gestes extraordinaires dans des cases, parce qu'il y a autant de miracles que de besoins. Et Jésus répond à tous nos besoins, absolument tous nos besoins, avec beaucoup d'amour et de patience. Aussi, quand le Christ veut montrer à ses apôtres qu'il a de l'autorité sur la nature, il va faire apaiser la tempête. En se réveillant, il va menacer le vent et les flots agités. Il apaise et il donne le calme. Quand Jésus veut montrer l'amour du Père et la puissance du Père victorieux sur la mort, il va ressusciter Lazare. Lazare sort et il se lève entre les morts, les pieds et les mains liés de bandelettes. Il fait venir le surnaturel dans le naturel et nous donne l'exemple. Le quatrième point, les conséquences et les récompenses. 2 Corinthiens 9, versets 6, 11 nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner, ce n'est pas forcément donner de l'argent, c'est donner du temps, c'est donner de l'amour, c'est donner plein d'autres choses. Il n'y a pas, je ne parle pas forcément que de l'argent. Il est bon de savoir que Dieu veut nous ouvrir son bon trésor du ciel. C'est là qu'il a le réservoir de ses richesses et de toutes ses bénédictions, de toutes ses grâces. Paul déclare dans Éphésiens « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et Jacques affirme, 1:17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Pourtant, nous, en tant que chrétiens, on a souvent la peur de manquer. Et je m'inclus dedans parce que c'est souvent mon cas, peur de manquer. Pas spécialement manquer d'argent, hein, je reviens, on a peur de manquer. Et il y a une frénésie parmi les nations, un tumulte, comme le déclare le psaume 2:1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les hommes de toute planète ont peur. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre notre santé, peur de perdre de la famille, notre emploi, peur de la guerre, peur de la crise, peur des virus, etc. Les peurs ne manquent pas dans ce monde. Nous aussi, on a souvent cette peur, hein. On peut le reconnaître quand même. Celui qui n'a peur de rien, alors qui lève la main ce matin? Et c'est à nous de croire que les promesses de la parole de Dieu sont éternelles. Que ce qui nous certifie que nous sommes dans la bénédiction. La bénédiction céleste. Les bénédictions de l'éternel qui nous enrichissent et qui nous fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Ayons une foi pratique. Nos actes sont la preuve de ce que nous croyons. Et c'est vraiment ce que Dieu déclare sur nos vies. Écoutez ce que Dieu nous dit, comme l'a dit Quentin ce matin, dans la présence du Saint-Esprit. Il nous dit souvent que c'est par la foi que toute chose arrive. Cette foi que nous devons mettre en pratique. Et cette foi nous conduit par toutes sortes de bénédictions. Bénédictions de paix. Bénédiction de santé, bénédiction d'amour. Et sachez que la semence est toujours plus petite que la récolte. Ceux qui font du jardin le savent. Si on sème une petite graine, souvent il y a une grosse plante qui arrive derrière. La semence est toujours plus petite que la récolte. Alors si nous revenons à ce Jésus, est-ce que nous connaissons vraiment ce Jésus dont tout le monde parle? Ce Jésus qui est venu avec une succession de miracles que Dieu avait programmé d'avance, avec une certitude sur le temps. Ce Jésus qui a été rejeté, maltraité, et qui a compassion de chacun d'entre nous. Ce Jésus qui nous donne tout selon nos besoins. Alors je me souviens plus vraiment du verset, mais je suis bénie de toute bénédiction selon la richesse de Jésus-Christ. Ça, c'est un verset qui nous parle, qui peut nous parler beaucoup. Je suis bénie de toute bénédiction selon la richesse en Jésus-Christ. Et les richesses de Jésus-Christ sont énormes. Ce Jésus qui nous promet qu'il va nous aimer toujours, jusqu'à la fin des temps, et qu'il ne nous abandonnera jamais. Ce Jésus qui a tellement souffert, je crois que quand on l'a rappelé ce matin, et s'était vraiment guidé, pour qu'on puisse prendre en considération tout l'amour qu'il a pour nous. Un amour si fort, si puissant. Un amour qui vous dépasse. Un amour qui déborde, comme tu l'as dit. C'est quand la courbe déborde. Quand vous êtes dans la présence de Dieu et que vous sentez que ce cœur, il se remplit de façon incroyable et que ça commence à déborder tout autour. Voilà qui est ce Jésus. Je sais que vous le connaissez tous, mais peut-être, j'espère vous avoir apporté une petite chose, une petite semence qui va grandir dans le cœur de chacun d'entre nous, tout comme il le fait dans mon cœur, jour après jour, pour nous démontrer l'amour puissant que Jésus a pour chacun d'entre nous. On peut prier maintenant. Seigneur, je veux te remercier pour cet amour que nous ne pouvons pas dimensionner. C'est impossible. C'est totalement impossible. Mais par contre, toi, tu peux aller dans le cœur de chacun, mettre cette petite graine qui va grandir jusqu'à déborder tout autour de chacun d'entre nous. Parce que nous avons besoin, Seigneur, non seulement de ton amour, mais de le partager. Tu ne nous as pas donné cet amour pour qu'il soit à l'intérieur de nous. Exclusivement, tu nous as donné cet amour pour qu'il soit partagé. Aimons-nous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Merci Seigneur pour cette graine que tu mets dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen.